Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Check-up santé sur BFM Business. C'est un établissement de santé américain, mais installé en France depuis plus d'un siècle. C'est l'hôpital américain qui annonce un vaste projet architectural dédié à la médecine de demain et lance le prix Prévention et Innovation à destination des start-up e-santé. Son directeur général, le professeur Robert Sial, nous le présente. Bien vieillir ne suffit pas, il faut vieillir heureux. C'est ce que nous dit François Sarkozy dans son nouveau livre « Vieillir heureux, c'est possible » aux éditions Le Duc. Quant à Lisa Da Silva, présidente de l'ANEPF, Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France, elle va nous dire comment elle voit le futur de ses 33 000 collègues étudiants. Check-up santé, c'est parti. Robert Sial, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous avez une grande connaissance du monde de la santé, puisque vous êtes passé par l'Institut Gustave Roussy, vous étiez directeur médical, vous avez dirigé G Healthcare, et vous êtes depuis 6 ans le directeur général de l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. L'hôpital américain, c'est un espèce de cocktail entre ce qui se fait en Amérique et en France ?
Oui, absolument.
L'hôpital efficace.
Un cocktail efficace. Mmh. L'hôpital américain a pour mission d'apporter à ses patients le meilleur de la médecine française et américaine.
C'est tout. Le meilleur.
Le meilleur.
À tout point de vue.
Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? De nombreuses choses. Mm-hmm. La première chose, c'est qu'on a évidemment des activités en France importantes et on a une collaboration avec les États-Unis extrêmement importante. Une collaboration qui se fait avec les hôpitaux de New York, le New York Presbyterian Hospital, Columbia et Cornell. Mm-hmm. Et on a des collaborations qui portent sur les offres cliniques en cardiologie, en gastro-entérologie, en orthopédie, en génétique, etc., etc. Et
c'est la raison pour laquelle vous recevez aussi pas mal de patients étrangers, dont patients américains.
L'hôpital américain reçoit historiquement entre 25 et 30% de patients étrangers. Effectivement, on est reconnu comme un hôpital international.
Et finalement, c'est moins que ce que l'on pense, finalement. Et c'est tant mieux. Je veux dire, on a l'impression... Beaucoup de gens disent l'hôpital américain, c'est uniquement pour les étrangers. Pas du tout.
Non, pas
ça
du tout.
Ça ressort en grande majorité des Français.
70% de nos patients sont des patients français ou résidents en France, en tout cas, bien sûr.
Il y a combien de lits, l'hôpital américain ?
Alors, c'est un hôpital de taille moyenne. On a 140 lits et 40 places.
Et de vrais lits.
De vrais lits, 140.
Oui,
140.
Évidemment, l'ambulatoire.
Juste l'ambulatoire.
Et de consultations par an ou...
Alors, il y a 200 000 consultations par an. Il y a 15 000 séjours de patients, soit d'hospitalisation complète, soit d'hospitalisation ambulatoire. Mm-hmm. On a aussi 800 employés, dont les trois quarts sont dans le soin des soignants. Et on a 330 médecins libéraux.
Oui. Ils sont travaillés. Votre établissement a un statut assez particulier, non ?
Alors, le point clé de l'établissement, c'est qu'on a un établissement reconnu d'utilité publique depuis longtemps et à but non lucratif. Ce point est très important parce qu'il est souvent mal compris. On pense que l'hôpital est à but lucratif. Pas du tout. Les patrons de cet hôpital, le conseil d'administration, demandent que l'hôpital soit un hôpital qui offre la meilleure médecine, mais ne demandent pas de dividendes. Ils sont à but non lucratif. Donc oui, ce statut est particulier.
Alors, ce qui est très important, c'est que votre établissement s'universitarise.
Absolument.
Racontez-moi.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'universitarise ? Il faut voir d'où on part. On part de ce qui était, ce qu'on pourrait assimiler à une clinique ouverte, c'est-à-dire quelques médecins qui travaillaient temps plein, beaucoup qui travaillaient de façon partielle, venaient à l'hôpital en bénéficiant de toutes les infrastructures, le bloc opératoire, l'imagerie, etc., et puis passaient d'un hôpital à l'autre. De plus en plus, on a décidé que c'était un hôpital qui devait se faire, donc favoriser des médecins qui ont l'essentiel de leur temps à l'hôpital, et d'avoir une vocation universitaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que l'innovation, l'esprit d'équipe, se passe au contact du monde universitaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé maintenant un partenariat, enfin pas partenariat, on fait partie maintenant de l'école de médecine Simone Veil, Université de Versailles-Saint-Quentin, et on a nos premiers postes de prof, on a des chefs de clinique, on a des externes, et au-delà de ça, donc, on a des programmes de type universitaire qui se font donc avec un pilier français, et un pilier américain, et à chacun des... Il y a encore 10 il y a 4 à 5 déplacements aux États-Unis par an, avec à chaque fois maintenant des collègues de l'UVSQ et des collègues de l'hôpital américain.
Vous avez juste deux mots sur votre projet architectural. L'hôpital va changer.
Alors, on a un très beau et très grand projet architectural, excusez-moi. Mm-hmm. On va augmenter la surface de l'hôpital de 22%. On dépense 100 millions d'euros, la plus grosse somme dépensée par l'hôpital depuis des années. C'est un magnifique bâtiment fait par Jean-Michel Villemotte, dans lequel on refait tout l'accueil. On fait 12 salles d'opération, dont 4 de mini-invasifs. Et on refait le check-up center, pour lequel on triple la surface, puisqu'il passe à plus de 1000 m².
Et tout ça grâce à des dons ?
Alors, pas seulement, mais c'est vrai qu'on a une capital campagne très importante et le soutien de donateurs importants. Donc, une partie très importante du bâtiment est financée par des dons, absolument.
Alors, l'actualité, donc, votre actualité immédiate, c'est le lancement du prix prévention et innovation ?
Absolument. Donc, une des raisons majeures de l'hôpital, c'est l'innovation. Pourquoi ? On est un hôpital qui a des patients internationaux et un hôpital dont une partie pour les patients sécurité sociale est non conventionnée. Ça ne signifie pas d'ailleurs qu'ils ont tout à payer. Une partie importante sera quand même remboursée par la sécurité sociale. Mais si je prends un angle...
D'ailleurs, il y a pas mal d'actes complémentaires qui sont conventionnés.
Alors tout à fait, une partie importante est conventionnée, toute l'imagerie, toute la biologie, la cancérologie. Mais une partie ne l'est pas. Et si je prends un angle que je vais qualifier de plus business, nos patients ont deux raisons d'accepter un reste à charge. La première, c'est la qualité des médecins et la qualité de l'offre médicale. Bon, la deuxième, appelons ça l'hôtel, les chambres, etc. Mais si je reviens à la première, eh bien, l'innovation doit être absolument centrale. Pourquoi un patient paierait éventuellement un peu plus ? Parce que l'innovation est au centre de ce qu'on peut lui offrir.
C'est la raison pour laquelle vous lancez ce prix.
Oui.
Donc avec un lancement dès aujourd'hui, je crois.
Qui a été lancé, qui même se termine le 13 novembre.
Si jusqu'au 13 novembre, c'est ça.
Ils peuvent regarder sur notre site. Mais je reviens sur l'innovation. Oui. On est déjà dans l'innovation avec des start-up et des start-up françaises depuis longtemps. Je voudrais citer une firme qui s'appelle Incepto. Actuellement, toutes les mammographies de l'hôpital sont lues en IA, tous les scanners thoraciques, toutes les IRM cérébrales. En endoscopie interventionnelle, on est avec Fuji, il y a de l'IA, je pourrais multiplier les exemples. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur l'innovation. Mais ce prix s'appelle Innovation et Prévention. Alors, pourquoi prévention ? L'hôpital américain a été très innovant en matière de prévention puisqu'on a ouvert le premier check-up, notre check-up, en 1991. Actuellement, il s'est beaucoup différencié. On a des check-ups spécialisés, le check-up cardiologie, par exemple. On est le seul à l'offrir en France. Donc, on est très, très innovant là-dessus. On a près de 8000 bilans par an. Donc, là, on a fait un gros effort sur la médecine préventive. Et donc, on a décidé de focaliser ce prix, avec des start-up ou pas des start-up, sur innovation et prévention.
D'ailleurs, pas seulement des start-up d'ailleurs, aussi des projets.
Des projets,
peut-être primés. Donc, le dépôt de candidature, c'est important de le dire, jusqu'au 13 novembre 2023, et pour 4 lauréats, c'est ça, en décembre.
Alors, il y aura 4 lauréats, qu'est-ce qu'on peut leur offrir ? Bon, d'abord, il y a 100 000 euros sur la table, mais on peut également être un lieu de test, si je puis dire, pour des solutions, où on peut tester des solutions pour ces start-up dans notre hôpital. Mais il y a aussi de l'accompagnement financier.
Absolument. Merci beaucoup, Robert Sigal. Merci beaucoup, directeur général de l'hôpital américain à Neuilly. On va à présent accueillir François Sarkozy, médecin lui aussi, pour son nouveau livre « Vieillir heureux, c'est possible ».
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
François Sarkozy, bonjour.
Bonjour Fabien Gaze.
Merci d'être là, on se connaît très bien depuis de nombreuses années. Vous êtes à l'origine pédiatre, membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie, vous avez fait un MBA à l'INSEAD, vous dirigez FSNB Health and Care et touspourlasanté.tv et vous sortez un tout nouveau livre, Vieillir heureux, c'est possible, aux éditions Le Duc, bouquin facile à lire et surtout validé scientifiquement. C'est quand même étonnant de sortir un bouquin sur vieillir quand on est pédiatre.
Mais je pense que le pédiatre s'intéresse pas seulement au traitement des otites, mais aussi essayer de révéler tout le potentiel des enfants. Et donc la prévention est essentielle, que ce soit la prévention physique ou psychique. C'est finalement le même type de philosophie. J'avais lancé avec François de Labrosse en 2008 les états généraux du vieillir jeune à l'UNESCO. Donc ça fait un moment que je travaille sur ce type de sujet.
Alors juste quelques chiffres. Donc c'est vrai que la France, pas seulement la France, est une population qui vit.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les plus de 65 ans représentent peu ou prou à l'heure actuelle un Français sur quatre. un Français sur 5, pardonnez-moi, ils seront un Français sur 4 en 2030 et plus de 30% de la population européenne aura plus de 65 ans en 2050. Donc c'est un vrai sujet.
Et effectivement, vous disiez l'espérance de vie augmente, mais pas l'espérance de vie en bonne santé.
Non, effectivement, quand on regarde, on est assez bon en France avec l'espérance de vie à la naissance, mais quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé sans incapacité, on s'aperçoit que le réservoir d'années en bonne santé à partir de 65 ans ne va représenter que 50% des années qui nous restent à vivre. Donc ça pose un énorme problème. On n'est pas très bon en prévention en France. C'est en train de changer, hein,
oui.
Grâce aux mots.
Vous qui êtes médecin, vieillir, c'est une maladie ou pas, alors, finalement ?
Alors, c'est bien sûr une bonne question. Il y a des nouvelles théories sur le processus de vieillissement. Et la dernière des théories, c'est de dire que finalement, au lieu de s'intéresser aux conséquences du vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies inflammatoires, on ferait mieux de s'intéresser au processus de vieillissement qui est la maladie. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle, on peut impacter sa trajectoire de vieillissement.
Alors, vous disiez donc la population vieillit, mais et c'est vrai qu'on est quand même parfois confronté à un certain jeunisme. J'ai l'impression que d'être âgé maintenant, ça se ringardise un peu.
Oui, mais je trouve qu'il y a une vraie discrimination contre les vieux. Une discrimination
vraiment,
contre
oui.
les seniors.
Oui.
Ben, déjà, vous le savez mieux que moi, la pré-retraite, c'est une perte d'expertise, alors qu'on a montré que travailler plus longtemps, à condition de travailler évidemment dans des conditions satisfaisantes, ça a un impact sur la longévité, ça a été démontré. Si on travaille plus longtemps, on peut gagner 10% de longévité. Ouais. On fait ensuite sortir les vieux des centres-villes, alors qu'ils ne peuvent plus conduire. Et enfin, pour les personnes âgées, sortir dans les rues de Paris quand il y a les nouveaux modes de mobilité qui prennent les sens interdits, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, c'est difficile.
Et pourtant, la personne âgée, on a l'impression qu'elle culpabilise de vieillir. Vous le
oui,
ressentez, ça, ou pas
que,
ouais.
Je pense que notre société ne donne plus leur place aux personnes âgées et aux seniors. Je pense qu'on fait beaucoup mieux en Afrique et en Asie. On a l'impression que si on n'est plus dans l'activité productiviste, on n'est plus intéressant. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas que c'est grâce aux seniors qu'on a un monde libre et une société solidaire. Et puis d'ailleurs, ils sont aussi des contribuables et ils consomment. Donc on a intérêt aussi à faire levier sur cette consommation.
Pourtant, cette perte d'autonomie, quand elle arrive, elle coûte cher à la société quand même.
Plus de 24 milliards d'euros par an, et encore, c'est sans doute une sous-estimation. C'est absolument énorme. On va dans le mur en klaxonnant. On s'aperçoit, selon les données, les prévisions de l'INSEE, qu'on pourra avoir jusqu'à 4 millions de personnes en perte d'autonomie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on double, à ce rythme-là, le nombre d'ouvertures de lits dans les EHPAD.
Et pourtant, vous dites dans votre livre que ce n'est pas une fatalité, cette perte d'autonomie.
Non, ce n'est pas une fatalité. Si on s'occupe de sa santé physique, de sa santé mentale, si on reste curieux, actif, si on se stimule physiquement, intellectuellement, si on fait attention à son alimentation, on peut vivre plus longtemps en bonne santé, oui.
Oui, vous dites que de nombreuses études montrent que quand on a un lien social, quand on a gardé des liens sociaux, on vieillit mieux et plus longtemps.
Oui, il y a une étude très intéressante qui a été faite par Harvard Medical School pendant 80 ans sur une cohorte de 700 personnes qui a montré à l'évidence que ceux qui ont des interactions sociales réussies sont ceux qui vivent plus longtemps et en meilleure santé. Vous allez me dire c'est du bon sens, mais maintenant ça a été démontré scientifiquement.
C'est prouvé. Donc l'idée c'est de travailler peut-être plus longtemps. On a beaucoup parlé de retraite, mais...
Alors en tout cas, c'est sûrement de préparer sa retraite. La retraite, si elle n'est pas préparée, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il faut la préparer. Il faut rester curieux. Il faut garder une estime de soi et une utilité sociale. On s'aperçoit que quand il y a la perte de sentiment d'utilité sociale, on arrive assez vite vers la dépression. D'ailleurs, nous avons un triste record en France. Ce sont les dépressions des seniors et le taux de suicide chez les seniors. 2700 morts par suicide par an. Quasiment le même nombre de morts que d'accidents sur la route.
Alors, pour finir, est-ce qu'on peut, peut-être une note d'espoir, est-ce qu'on va pouvoir donc arrêter, voire inverser le processus de vieillissement ? Est-ce qu'il y a des essais en cours ?
Il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, vous connaissez la théorie des télomères, hein, c'est-à-dire que c'est un processus génétique irréversible. on vieillit, plus on vieillit, plus l'extrémité de nos chromosomes diminue. Eh bien, on s'est aperçu que certaines choses permettent de ralentir cette vitesse de réduction. D'abord, c'est l'activité physique régulière. C'est pas d'aller faire deux parties de tennis par semaine, hein. C'est vraiment une activité physique régulière quotidienne. La deuxième chose, c'est plus surprenant, on ne sait pas encore pourquoi, c'est la méditation en pleine conscience qui non seulement permet de réduire cette vitesse de réduction, mais qui semble rallonger les télomères. Enfin, il y a des essais passionnants en cours avec certains produits, notamment la metformine qu'on connaît bien, c'est un traitement utilisé chez les diabétiques, et il semblerait que cette metformine puisse, on attend les résultats des études, vous précipitez pas pour vous mettre sous metformine, il semblerait que ça permette de retarder effectivement les complications du vieillissement.
Et ben, ça va faire plaisir à mes patients diabétiques sous metformine. Merci beaucoup François Sargody. J'ai lu votre livre du début à la fin, il est absolument génial et surtout il y a avec des validations scientifiques. Merci beaucoup François Sargody. On va à présent accueillir Rémi Teston pour sa chronique e-santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Bonjour Rémi.
Bonjour Fabien.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans Check-up Santé pour votre chronique e-santé régulière. On parle beaucoup de l'essor du marché des bagues connectées.
Exactement, on en avait un petit peu parlé quand on avait fait le débrief du CES où il y avait eu quelques sociétés innovantes qui présentaient des bagues intelligentes qui permettent justement de prendre la température, d'avoir des capteurs cardiaques ou d'avoir des fonctionnalités d'accéléromètre.
C'est
vraiment
une bague.
Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les grands acteurs du numérique s'intéressent beaucoup à ce marché puisqu'il y a Samsung qui a annoncé qu'ils allaient lancer début 2024 une bague qui s'appelle Galaxy Ring et qui va avoir du coup énormément de fonctionnalités santé. Et Apple a également déposé un brevet pour une Apple Ring qui, comme l'Apple Watch, va faire la part belle à toutes les fonctionnalités santé. Donc, un vrai marché qui se développe.
Donc, après Apple, on parle de Google, qui multiplie les annonces en santé.
Exactement. Donc, Google, c'est vrai, communique beaucoup sur ses projets autour de l'intelligence artificielle, mais a aussi fait beaucoup d'annonces autour de nouvelles fonctionnalités, nouveaux outils. Il y a notamment une application qui s'appelle Santé Connect, qui permet de regrouper toutes les données santé que l'on a sur son téléphone. Une carte de surveillance aussi des pollens. Et puis, il y a une montre connectée, la Pixel 2, qui va sortir et qui reprend des fonctionnalités des solutions Fitbit. Et la plus intéressante, c'est la solution Google Lens, donc une application qui à la base permet de faire des photos et de voir des correspondances pour identifier ce que c'est. Et donc là, ça se transforme en dermatoscope où finalement on fait une photo de sa peau et à partir de là, ça va chercher des correspondances pour voir si potentiellement on peut être atteint d'eczéma, de psoriasis, etc. Bien sûr, ça remplace pas la vie d'un médecin, mais ça permet déjà d'avoir une indication.
Grâce à l'IA, toujours.
Exactement.
Enfin, la start-up du mois.
Donc ce mois-ci, oui, on voulait faire un focus sur Applis Medical, qui est une solution digitale qui regroupe une flûte intelligente, une flûte connectée, et des jeux vidéo qui permettent justement la rééducation des patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Et c'est pour lutter notamment contre la non-observance ou l'abandon, la lassitude qu'il peut y avoir à faire de la rééducation respiratoire. Et donc c'est une start-up qui se développe de plus en plus.
Donc aussi ludique qu'efficace.
Exactement. Par la gamification, on arrive du coup à créer de l'émulation et...
Merci beaucoup Rémi Teston.
Merci Fabien.
Vous revenez évidemment quand vous voulez,
avec
comme
plaisir.
D'habitude. On va enfin remonter le temps puisqu'on va accueillir cette fois-ci une étudiante, Lisa Da Silva, présidente de l'ANEMF, Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Lisa Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente de l'ANEPF, c'est l'Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France. Vous êtes en quelle année de pharmacie?
Je suis en quatrième année de pharmacie à Poitiers.
Donc, c'est une année blanche?
Exactement,
je suis en CGE. Consacrer, justement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous consacrer donc, à la cause étudiantine?
Ça a commencé au tout début avec le tutorat, qui est un service pour les étudiants, envers les étudiants, pour pouvoir les aider, notamment durant leur première année, qui est actuellement la LAS et la PASS. Mmh. Et ensuite, je pense que c'est tout simplement, en tant que jeune aujourd'hui, on a la capacité et la possibilité de pouvoir s'engager, de pouvoir façonner une santé qui nous ressemble. Et il y a pas mal de choses qui peuvent nous déranger actuellement. Et c'est à nous d'être acteurs de ce changement-là. Et je me suis dit, pourquoi pas consacrer une année années pour essayer, en tout cas, de défendre les droits et les intérêts de nos étudiants et façonner un peu la pharmacie de demain.
Et je sais que vous le faites bien. Combien d'étudiants en pharmacie alors en France ?
Plus de 33 000. Actuellement, ça aussi, parce qu'on a eu des petits soucis de recrutement ces deux dernières années, mais plus de 30 000 étudiants sur le territoire français.
Sur 24
Sur 24 facultés, c'est ça.
Et avec, effectivement, donc un manque d'attractivité des études ? Pourquoi ?
Ouais, ça fait deux ans, on a ressenti une baisse des deuxièmes années entrant en pharmacie. On avait plus de 1000 places vacantes il y a un
énorme.
An.
Oui.
C'est beaucoup. Mmh. Et cette année, on est à 471 places vacantes. C'est beaucoup. C'est un constat qui a été fait. Maintenant, encore une fois, il faut trouver les solutions et remédier à ça. Je pense que c'est la méconnaissance du métier. Aujourd'hui, les lycéens, les collégiens, mais même le grand public ne sait pas ce que c'est un pharmacien. Mmh. Ne sait pas qu'on peut trouver un pharmacien en recherche, qu'on peut trouver un pharmacien dans du droit, pharmacien ingénieur. Je pense qu'aujourd'hui,
en officine, bien sûr.
En officine, oui. C'est le plus connu, c'est celui qui est visible. Mais en fait, on a plus de 1000 métiers différents. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus sur montrer aujourd'hui qu'est-ce que la pharmacie et quel est son avenir, parce qu'on est en pleine expansion des missions du pharmacien. Donc, c'est notre rôle, en tout cas, je pense, en tant que jeune, de sensibiliser les plus jeunes et le grand.
L'épidémie Covid a redoré un petit peu donc le blason des pharmaciens, non, remis le pharmacien à sa vraie place, quoi, de contact direct avec le patient.
Exactement. On a un peu plus mis l'aspect relationnel du pharmacien en avant et un peu moins l'aspect commercial. Après, voilà, le Covid a quand même fait du mal à la santé. C'est vrai que ça a été très dur pour tous les professionnels de santé. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu montré que aujourd'hui, on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, la santé, c'est l'avenir. Et dire aux jeunes qu'il faut s'engager en santé parce qu'il y a des très, très belles choses et qu'avant tout, c'est du relationnel avec du patient avant d'être du commercial.
Donc votre mission donc à l'ANEP, c'est d'être en rapport avec les doyens, avec les conseils de l'ordre, avec les ministères, c'est ça, non ?
Oui, on a deux volets. Du coup, on a le volet étudiant où on aide, où on accompagne, où on oriente nos étudiants via la formation et la sensibilisation sur leur vie étudiante, mais aussi leur vie professionnelle en tant que futur professionnel de santé. Et après, on a l'aspect institutionnel où là, on est en relation avec les ministères, les doyens, l'ordre et les syndicats pour pouvoir faire évoluer la profession et pouvoir apporter un petit peu la vision des étudiants et du coup la position des étudiants.
Alors on parle de plus en plus avec ce contexte de pénurie, de délégation de tâches entre différents professionnels de santé, entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, le futur, c'est l'interprofessionnalité. Mmh. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. On part beaucoup de...
Malgré quelques combats d'arrière-garde. Hein.
Oui, ouais. Non, mais évidemment, chacun... gardera un petit peu ses missions.
Son magasin.
Voilà, c'est ça. Et il faut qu'on garde aussi nos missions spécifiques parce qu'on a tous un rôle clé dans le parcours de soins. Mais aujourd'hui, quand on parle de parcours de soins, il faut vraiment qu'on en parle pleinement et qu'on mette les deux pieds dans le plat. Un parcours de soins, c'est des professionnels de santé du début jusqu'à la fin et pas qu'un seul. Aujourd'hui, le patient ne devrait pas choisir sur un professionnel de santé, mais pouvoir avoir accès à tous. Donc, je pense que c'est dans la continuité. Et aujourd'hui, nous, en tant que fédération étudiante, avec les autres professionnels et les autres fédérations, on travaille ensemble pour réfléchir en fait à la santé de demain en interprofessionnalité.
D'accord. Donc concrètement, ça se caractérise par quoi cette délégation de tâches qui est déjà en place avec les pharmacies ? La vaccination, c'est...
C'est ça exactement. Là, actuellement, c'est la vaccination qui a été aussi autorisée aux infirmiers, infirmières et aux sages-femmes. À partir de 11 ans, sans pathologie, on reste quand même sur un cadre assez strict. Et ensuite, là, il y a eu... En août, le décret qui est sorti pour les TROD, enfin qui est actuellement dans le PLFSS, donc pour les TROD angine et cystite, s'ils sont positifs avec la prescription et la délivrance d'antibiotiques.
Il y a eu une certaine polémique au sujet de cette délivrance d'antibiotiques par les pharmaciens.
Et évidemment, et je pense que là, c'est aussi de notre rôle en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professionnel de santé, donc aux pharmaciens, aux syndicats et à l'ordre, de dire qu'aujourd'hui, ça ne sera pas une délivrance qui sera faite sans contrôle, c'est une délivrance qui est faite sous couvert d'un test positif. Et derrière, aujourd'hui, il y a toutes les nouvelles technologies, avec aussi mon espace santé qui nous permettra de dialoguer avec le médecin et que le médecin traitant soit au courant de cette délivrance et que nous, derrière, de toute façon, on a tous les antécédents du patient et ses médicaments qui peut prendre. Donc, ça reste contrôlé et c'est pas quelque chose qui est fait et ça engage la responsabilité du pharmacien aussi. Donc, aujourd'hui, si un pharmacien ne veut pas engager sa responsabilité sur la délivrance d'un antibiotique, il a le droit.
Alors, pour finir, comment voyez-vous la pharmacie, l'officine, hein, je ne parle pas du métier, de l'autre métier de l'industrie, l'officine dans 20 ans, dans 20 ans, 30 ans?
Ah, c'est lointain.
C'est loin, bien sûr, oui. Vous êtes jeune.
Oui, mais oui, non, mais exactement. L'officine, dans 20-30 ans, je pense que ça va être une officine qui sera plus proche de son patient. Aujourd'hui, on essaye énormément de développer les entretiens pharmaceutiques qui sont encore trop peu connus du grand public et des patients. Et je pense que l'officine de demain, voilà, ça sera une officine qui sera proche de son patient, qui pourra l'accompagner dans son traitement du début à la fin, et qui sera beaucoup plus à son service et beaucoup moins dans le commerce, et où on sera
profitera de toutes ces évolutions technologiques.
Voilà, c'est ça,
évidemment.
Exactement. Et où, en fait, où le pharmacien sera reconnu pour ses conseils et non pour ses ventes.
Eh bien, merci beaucoup, Lisa Da Silva. Merci beaucoup, président de l'ANEP. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.